Je dois cette histoire à quelqu'un qui n'avait pas à me la raconter, ni à personne d'autre. C'est, je crois, la séduction d'une bonne bouteille de vin qui a incité mon informateur à la commencer, et s'il l'a continuée les jours suivants, c'est sans doute grâce à l'incrédulité avec laquelle j'ai écouté cet étrange récit. Lorsque mon compagnon de table s'aperçut qu'il m'en avait beaucoup dit, mais que j'étais enclin au scepticisme, son sot orgueil acheva l'œuvre entamée par le vin. Il me montra la preuve écrite de ce qu'il avançait, sous la forme d'un manuscrit tout moisi et de rapports du Colonial Office britannique, qui confirmait plus d'un détail de son étonnante confidence. Je ne dis pas que cette histoire soit vraie, car je n'ai pas été témoin des événements qu'elle relate. Mais le simple fait qu'en la retraçant ici, je donne des noms fictifs à ses principaux acteurs, indique à suffisance que je crois sincèrement qu'elle peut être vraie. Les pages jaunies et rongées du journal d'un homme mort depuis longtemps, ainsi que les rapports du Colonial Office, cadrent parfaitement avec le récit de mon hôte. C'est pourquoi je vous livre l'histoire que j'ai laborieusement reconstituée à partir de ces différentes sources. Si vous ne la jugez pas digne de foi, vous devrez au moins me concéder qu'elle est unique en son genre, remarquable et bien intéressante. Les archives du Colonial Office et le journal de ce mort nous apprennent qu'un aristocrate anglais, que nous appellerons John Clayton, Lord Greystoke, avait été chargé de mener une enquête particulièrement délicate sur la situation dans une colonie britannique d'Afrique occidentale, où l'on savait qu'une autre puissance européenne recrutait parmi les indigènes des soldats pour ses propres troupes noires. Troupes qu'elle utilisait exclusivement pour extorquer du caoutchouc et de l'ivoire aux tribus sauvages du Congo et de la Rouémie. Les indigènes de la colonie britannique se plaignaient que beaucoup de jeunes gens étaient emmenés au loin avec de belles promesses, mais que bien peu d'entre eux revenaient dans leur famille. Quant aux Anglais, ils étaient encore plus critiques, affirmant que les officiers blancs profitaient de l'ignorance des pauvres noirs pour prétendre, à l'expiration de leur engagement, qu'ils avaient encore plusieurs années de service à accomplir. Ainsi donc, le Colonial Office avait nommé John Clayton à un poste en Afrique occidentale anglaise, mais avec des instructions confidentielles, lui assignant une mission d'investigation approfondie au sujet des mauvais traitements que les officiers d'une puissance européenne amie faisaient subir à des sujets noirs de l'Empire britannique. Il importe peu de savoir quand cette nomination eut lieu, car il ne fit jamais la moindre enquête et, en fait, n'atteignit jamais sa destination. Clayton était ce type même d'anglais que l'on associe volontiers aux grands événements et aux batailles victorieuses de l'histoire de son pays. Un homme fort et viril, mentalement, moralement et physiquement. Il était d'une taille au-dessus de la moyenne, il avait les yeux gris, les traits réguliers et puissants, le port altier et la santé robuste d'un homme formé par des années d'entraînement militaire. L'ambition politique lui avait fait demander sa mutation de l'armée au Colonial Office. Voilà pourquoi nous l'y retrouvons, encore jeune, chargé d'une mission délicate et importante au service de la reine. Cette nomination le transporta et l'effraya tout à la fois. Qu'on l'ait choisi, cela lui semblait être la récompense méritée d'un service accompli avec zèle et intelligence, et un pas en avant vers de plus hautes responsabilités. Mais, d'un autre côté, il venait d'épouser à peine 3 mois auparavant l'honorable Alice Rutherford. L'idée d'emmener cette douce jeune fille au milieu des dangers et dans la solitude de l'Afrique tropicale le consternait. À cause d'elle, il faillit refuser la nomination. Mais elle ne voulut rien savoir. Au contraire, elle insista pour qu'il accepte et même pour qu'il l'emmène avec lui. Il y a bien des mères, des frères et des sœurs, des tantes et des cousins pour exprimer diverses opinions sur la question, mais l'histoire ne dit pas quels purent être leurs avis. Nous savons seulement qu'un beau matin de mai 1888, John, Lord Greystoke et Lady Alice s'embarquèrent à Douvres pour l'Afrique. Un mois plus tard, ils arrivèrent à Freetown, où ils affrétèrent un petit voilier, la Fuwalda, qui devait les conduire à leur destination finale. Et c'est alors que John, Lord Greystoke et Lady Alice, son épouse, disparaissent de la vue et de la mémoire des hommes.